Bonjour Frédéric Lefebvre.
Bonjour.
Près de 7 Français sur 10, 69% exactement, se déclarent insatisfaits de la restitution qui a été faite lundi du grand débat national par le Premier ministre. C'est ce que révèle un sondage de l'Institut Odoxa pour nos confrères de France Info et du Figaro. Est-ce que l'on ne va pas vers une grande déception à l'issue du grand débat avec tous les risques sociaux que ça comporte?
C'est toute la difficulté évidemment d'un exercice comme celui-là. D'abord, avec une crise d'une intensité et d'une violence assez inouïe, puisque c'est une crise, tout le monde l'a bien compris, qui ne répond pas simplement à un mécontentement sur une action gouvernementale récente, mais qui est une crise de vraie confiance.
Oui, c'est une lame de fond.
C'est une vraie lame de fond. Et donc, du coup, la réponse attendue, elle est immense par les citoyens. Ils attendent, pour avoir participé très fortement à ce grand débat, s'être mobilisés, les élus, les maires ont organisé, quelle que soit leur tendance politique, des réunions. Les gens se sont déplacés. Et donc, évidemment, ils attendent une vraie réponse. Je pense qu'il faut, comme toujours, on se précipite toujours. On veut demander l'avis aux gens avant même que la réalité de la restitution soit faite, puisque le président de la République ne s'est pas encore exprimé. Les grandes décisions n'ont pas été annoncées. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est très attendu et qu'il va falloir que ça décoiffe. Et je pense que c'est ça qu'attendent les gens. Oui. Ils attendent aujourd'hui des mesures en rupture avec ce qui se fait depuis 20 ou 30 ans, avec cette gestion technocratique qui mène la France dans une situation assez tendue, puisque les inégalités, que ce soit entre les territoires ou entre les Français, ne font que s'accentuer.
Alors, il y a un enseignement intéressant de ce sondage. 70% des personnes interrogées ne croient pas en la promesse de baisser et de baisser plus vite les impôts annoncés par Édouard Philippe. Bon, ça, ils ne croient pas à la promesse. On verra si elle est tenue.
Ils ont qu'on va leur baisser les impôts puis qu'on leur reprenne de l'autre côté.
Peut-être plus intéressant encore, 62% estiment au fond que le problème n'est pas tant le montant des impôts que leur répartition. Et au fond, ça montre bien que c'est toujours cette question, notamment de l'ISF qui n'est pas soldé.
Oui, mais on raconte tellement de bêtises aux gens sur l'ISF. Donc évidemment, quand vous avez le sentiment que l'ISF va vous régler votre situation et que ça va permettre de rééquilibrer la situation entre les riches et les pauvres, quand vous avez le sentiment que le président de la République a supprimé l'impôt sur la fortune, alors que vous savez très bien que ça n'est pas la réalité. Qu'en fait, il y a un impôt qui a été maintenu qui est l'IFI, qui est un impôt qui pèse sur le patrimoine immobilier, que celui qu'il a voulu supprimer, c'est celui qui pèse sur l'activité économique. Après, on peut discuter, on peut critiquer, mais c'est toute la difficulté. J'espère que le grand débat aujourd'hui et la restitution du grand débat, puis les décisions qui vont être prises, vont l'être avec un vrai langage de vérité sur tout ça. L'ISF, en fait, tout le monde le sait, vous savez, quels que soient les partis politiques, tout le monde sait que depuis que ça a été mis en place, c'est-à-dire en réalité par François Mitterrand, le dispositif, qu'est-ce qu'il a provoqué notamment? On voit très bien les courbes. En Allemagne, le capitalisme familial et notamment les PME, n'ont cessé de grandir en créant des ETI. En France, on a exactement la situation inverse. Et donc ça a mis à genoux toute une partie de notre économie et de l'action des acteurs économiques familiaux. Donc c'est ces enjeux-là qui comptent. Et au fond, ce que dit le président de la République sur une question comme l'ISF, c'est qu'à un moment, il vaut mieux avoir des gens riches. D'ailleurs, si vous n'aviez pas de riches en France, comment est-ce que les artisans, par exemple, pourraient travailler? Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut réussir à trouver.
Est-ce que le grand débat, avec toute la place qu'il prend, ne prive pas la France d'une vraie campagne pour les élections européennes?
C'est une vraie question, mais là encore, j'entends dire tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on a expliqué que Emmanuel Macron, avec le grand débat, faisait campagne européenne pour les européennes lui-même. On dit maintenant, finalement, on parle que du grand débat, on parle pas des européennes. Et on oublie simplement une chose, c'est que c'est ni Emmanuel Macron, ni vous, ni moi, qui avons voulu la crise des Gilets jaunes, et que le grand débat, c'est pas quelque chose qui a été imaginé par Emmanuel Macron quand il était candidat à la présidentielle ou dans les premiers mois de sa gouvernance. C'est une réponse la plus pragmatique possible à ce que je décrivais tout à l'heure, comme cette lame de fond qui répond à 30 ans de droite et de gauche qui au gouvernement. Regardez par exemple, c'est la question d'aéroport de Paris, juste un mot. Quand vous voyez le PS et les Républicains, je leur reproche pas d'être d'accord sur un sujet.
Ouais, ce qu'a fait Bruno Le Maire, qui leur a reproché.
Oui, mais moi, je pense que à partir du moment où nous-mêmes nous voulons additionner les différences, reprocher à l'opposition être d'additionner ces différences, c'est pas le sujet pour moi. Mais le sujet, c'est que depuis les 10 dernières années, que ça soit le PS ou que ça soit les Républicains, qu'est-ce qu'ils ont passé leur temps à faire ? Privatiser les aéroports, privatiser l'aéroport de Nice, privatiser les autoroutes. Qu'est-ce que proposait François Fillon ? Quand j'entends les LR là, qui s'agitent, y compris ceux qui étaient ses propres porte-parole, il proposait pas autre chose que la privatisation d'aéroports de Paris. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des crétins.
Dans ce contexte, Frédéric Lefebvre, l'enjeu des élections européennes pour Emmanuel Macron, il est d'abord européen ou d'abord français ?
Non, il est d'abord européen, mais en même temps, la question, vous la posez bien. Quel est l'enjeu des européennes ? Quel est l'enjeu de l'Europe, si ce n'est l'intérêt du pays ? Oui. Et c'est toute ma différence avec ceux qui sont en train d'essayer d'expliquer qu'en fait, il y aurait les Européens ou les européistes béats, et puis de l'autre côté, il y aurait les nationalistes qui, eux, seraient des vrais patriotes. Mmh. Je crois exactement l'inverse. D'ailleurs, toute la problématique qu'on voit se développer aujourd'hui en Europe, c'est la création d'une multinationale des nationalistes. Et avec un rassemblement national qui est aujourd'hui le parti de l'étranger. Parce que, pardon, mais regardons la réalité de ce qui se passe dans le monde. Avec le candidat de Marine Le Pen qui faisait estrade commune il y a encore quelques jours.
Je parle de Jordan Bardella.
Je parle de Jordan Bardella qui faisait estrade commune il y a quelques jours avec les nationalistes russes de Poutine. Ou le Rassemblement National qui est en train de travailler avec Steve Bannon, le conseiller de Trump, qui lui-même ne cache pas sa volonté, qui est de déstabiliser l'Europe. Et quand vous avez encore Trump hier soir, qui nous explique qu'avec l'Europe, ça va être la guerre économique. Pardon, mais il y a un moment où quand on est un parti qui se prétend nationaliste ou qui se prétend patriote, s'allier avec ceux qui désignent l'Europe et la France comme un ennemi, pardon, c'est une trahison.
Pas la France, l'Europe.
France, c'est l'Europe.
Oui, mais précisément, ces partis remettent en cause la façon dont la France est aujourd'hui membre de l'Union européenne.
Oui, d'accord, mais du coup, ils s'allient avec qui ? Avec ceux qui se battent contre nos intérêts.
Il nous reste pas beaucoup de temps, Frédéric Lefebvre. Cet observatoire des nationalismes que vous avez monté précisément, c'est quoi ? C'est un outil de politique ou, d'une certaine manière, un outil scientifique, comme auraient pu le faire des universitaires, par exemple ?
Écoutez, on est en train d'essayer, on est à la fois à Paris et à New York. À New York et aux États-Unis, c'est le World Nationalism Watch. Oui. On a des universitaires, des gens qui sont dans les grandes universités françaises, mais aussi un peu partout à l'étranger qui travaillent avec nous, des politiques, des acteurs économiques qui, par leur expérience, parce que le nationalisme, vous savez, il se cache derrière d'autres des décisions, parfois, d'un certain nombre d'États. Quand on a parlé, par exemple, de la question du capital d'Air France, on n'est pas dans autre chose que des réflexes nationalistes. Et c'est ça qui est aujourd'hui assez dangereux, parce que ça soit sur la question économique, que ça soit sur la question migratoire, on voit un certain nombre, un mouvement, en fait, qui dépasse les partis nationalistes. Et on voit un certain nombre de partis politiques, prenez par exemple mon ancienne famille politique, les Républicains, qui courent derrière ces problématiques-là en pensant que c'est ce qui va les mener au pouvoir. Quand vous avez un Wauquiez, par exemple, qui pense qu'il faut qu'il suive l'exemple de Orban. Moi, Orban, je l'ai connu à une époque où c'était quelqu'un de droite modérée et qui, simplement, pour prendre le pouvoir, a fait le calcul qu'il fallait épouser les thèses les plus extrémistes. Et il a réussi. Et c'est pour ça que vous avez des gens comme Wauquiez ou d'autres qui sont dans des logiques d'alliance souterraine avec l'extrême droite.
Merci Frédéric Lefebvre. Bonne
journée.
Merci
à vous.